Seigneur, nous te rendons grâce de nous réunir ce soir. Béni sois-tu pour la bénédiction de cette prière, parce que tu nous aimes, parce que tu es avec nous, parce que tu nous sauves sans cesse, malgré nos limites et nos péchés. Précisément parce que nous sommes pécheurs, tu nous sauves. Sinon, nous n'aurions pas besoin d'être sauvés. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Bien, toutes tes bénédictions, ce soir nous prierons particulièrement pour le monde. Nous prierons pas que pour nous, nous prierons aussi pour que le Seigneur nous délivre de cette épidémie, pour qu'il nous libère, pour qu'il vienne aussi au secours de ceux qui soignent, qui ont du courage, parce qu'ils ne sont pas toujours bien équipés pour ça. Donc nous prierons aussi pour les soignants, qui parfois se dévouent au-delà de leurs forces. De l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 4, à partir du verset 46. Jésus retourna alors à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver et le priait de descendre guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Déjà il descendait quand ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui dirent que son fils était vivant. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Il lui dit, « C'était hier, à la septième heure, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils vit », et il crut, lui avec sa maison tout entière. Ce nouveau signe, le second, Jésus le fit à son retour de Judée en Galilée. Je n'avais pas réfléchi qu'en choisissant cette péricope, que l'enfant, ce fils a la fièvre et qu'il risque de mourir avec la fièvre. Donc, je ne sais pas si c'est un virus, mais en tout cas, il y a une certaine analogie que je n'avais pas réfléchi en choisissant le texte avec ceux qui souffrent actuellement de fortes fièvres et de détresse respiratoire pour les cas, les 15% de gens qui sont dans les cas les plus graves. Et en tout cas, nous voyons donc ce fonctionnaire royal, et ce n'est pas par hasard si Jean dit que c'est un fonctionnaire royal, c'est pour signifier que c'est quelqu'un qui a une haute dignité dans l'État, et cette personne qui a haute dignité se déplace pour aller voir Jésus. Donc c'est un premier acte d'humilité. S'il se déplace pour aller voir Jésus, qui n'est qu'un va-nu-pied aux yeux des autorités, eh bien, c'est parce que ce fonctionnaire royal a un fils qui est malade qu'il désire absolument que son fils guérisse. Et du coup, ben, il sort du cadre de sa fonction de fonctionnaire royal pour aller se déplacer auprès du Seigneur. Il ne fait pas venir le Seigneur vers lui, il n'envoie pas des gens pour lui demander de venir, il se déplace lui-même. Et son fils, apprend-on, est au bord de la mort. Alors ce qui est très étonnant, c'est que Jésus ne le reçoit pas apparemment très bien. Il lui dit, donc l'autre, le fonctionnaire royal est en train de le prier de descendre guérir son fils, de venir, de l'accompagner pour aller guérir son fils. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Donc, on a l'impression qu'il le renvoie un petit peu dans ses buts et il a l'air de ne pas entendre sa demande, qui est pourtant une demande angoissée, une demande humble. Un peu comme Jésus à Cana, quand Marie lui demande, lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Et il lui répond, « Quoi entre toi et moi, femme ?» De temps en temps, Jésus est un petit peu dur par rapport aux demandes. Alors, en fait, c'est une mise à l'épreuve. Évidemment, c'est une mise à l'épreuve de la personne. Si la personne est un petit peu susceptible, si en fait, elle n'a pas vraiment confiance en Jésus, elle va se décourager tout de suite. Et donc, là, le Seigneur a juste mis en valeur que cette personne demande quelque chose à Jésus, mais en fait, elle n'a pas vraiment confiance en lui. Dès qu'il y a un petit obstacle, elle arrête. Mais ce fonctionnaire royal ne se laisse pas décourager par cette parole, comme Marie à Cana. Il y a un certain parallèle entre ce fonctionnaire royal et Marie. Et d'ailleurs, au début du récit, il est dit que Jésus retourna à Cana. Donc ce n'est pas par hasard qu'on est au même endroit où il y a eu la transformation de l'eau en vin à Cana. Et ce fonctionnaire royal, comme par hasard, a une attitude qui est proche de celle de la Vierge Marie. Tout ça n'est pas du hasard, évidemment. Quelque chose de marial dans ce fonctionnaire royal qui ne connaît pas Marie, mais dans sa foi, il y a quelque chose qui est proche de la foi de Marie. Le fonctionnaire royal dit « Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. » Voilà. « Oui, je sais bien, Seigneur, certainement tu as raison que nous n'avons pas suffisamment la foi, que nous demandons sans cesse des signes. » Il ne discute pas sur ce reproche de Jésus. Il ne le conteste pas. Jésus lui dit « Vous n'avez pas assez la foi parce que vous demandez des signes. » Il ne conteste pas ce reproche. Il l'accepte, mais simplement, il demande Jésus, malgré son peu de foi, si j'ose dire, d'avoir quand même compassion de son fils. Et c'est beau parce que quand Jésus veut nous guérir, parfois il met à l'épreuve notre humilité. Hein, peut-être quand vous êtes venu ici, il y a eu quelque chose qui était bon. Voilà. Et bien, le Seigneur met à l'épreuve notre humilité. Peut-être que votre voisin, etc. Bon, le Seigneur met à l'épreuve notre humilité. Vous voyez ? Et ensuite, s'il trouve en nous un cœur humble, il va entendre notre prière. Parce qu'il est dit dans les psaumes qu'un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre, c'est une personne humble. Voilà, donc, pour demander au Seigneur des guérisons, il faut peut-être d'abord lui demander pour chacun d'entre nous, à commencer par moi, la grâce de l'humilité, d'être petit. Alors Jésus lui dit, va ton fils, vis. Voilà, il voit dans ce fonctionnaire royal un homme qui a la foi et qui est humble, et il exauce sa prière. Alors, il est libre de l'exaucer ou pas de l'exaucer. Quand le Seigneur n'exauce pas la prière, c'est pas parce qu'on est méchant et pas humble, parce que le Seigneur a d'autres projets pour nous, peut-être. En tout cas, là, il exauce cette prière. Et alors, là, il est dit, l'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il se mit en route. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on ne l'appelle plus fonctionnaire royal. C'est un homme. Il s'est simplifié. Il est sorti de sa fonction. Sa fonction, il avait un petit peu sorti de son humanité. Et là, il redevient un homme. Et à la fin du récit, c'est même un père. Le père reconnut que c'était l'heure à laquelle Jésus avait dit « Ton fils vit ». Voilà. Donc on a un fonctionnaire royal qui devient un homme, puis finalement il est un père. Ça arrive parfois que quand on a une fonction haute, on se laisse prendre par sa fonction. Alors je ne condamne pas ceux qui ont des fonctions élevées, mais on se laisse plus ou moins un petit peu enivré par sa fonction, et parfois on perd un petit peu son humanité, ça peut arriver, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, parce qu'on est dans une fonction où tout le monde nous encense. Et donc ce fonctionnaire royal, il a dû descendre progressivement de fonctionnaire royal à homme pour redevenir un père par rapport à son enfant. Ça peut être qu'il n'était pas un père au départ, mais c'est à dessein que Saint Jean parle d'abord d'un fonctionnaire royal, puis d'un homme, et puis d'un papa. Et quand il descend donc pour... Il se met en route, ça veut dire qu'il a foi en Jésus, il n'a pas de signe justement. Jésus lui a dit, si vous ne voyez des signes, vous ne croirez pas. Ben là, il n'a aucun signe que la parole du Seigneur qui lui dit, ton fils est vivant. Et il le croit. Là, on voit qu'il a vraiment la foi, cet homme. Et il se met en route dans la foi, sans avoir aucun signe. Et sur le chemin, ses serviteurs viennent lui dire, ben voilà que son fils est vivant, qu'il n'est plus malade. Et du coup, il veut savoir à quelle heure ça s'est passé. C'est exactement à l'heure à laquelle Jésus lui avait dit que son fils était vivant. Donc c'est quand même une foi extraordinaire, ce fonctionnaire royal. C'est un homme qui a une dignité élevée. Eh ben, il est capable de se faire pauvre pour avoir la foi. Donc ce n'est pas parce qu'on a une dignité élevée qu'on n'est pas capable de se faire pauvre pour avoir la foi, même si le fait d'avoir une dignité élevée peut parfois nous enfermer. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on peut relever aussi dans le texte, c'est qu'une fois que ce fils est guéri, eh bien, toute la maison croit en Jésus. Donc cette guérison va provoquer la conversion de toute la maison. Le fonctionnaire royal, peut-être sa femme, ses fils, son fils, peut-être ses autres enfants, les serviteurs, tous ceux qui ont assisté à cette guérison vont mettre leur foi en Jésus. Voilà. Donc rendons grâce au Seigneur pour cet homme qui a la foi et qui est pour nous un exemple. Même si cet homme ne connaissait pas Jésus avant de le rencontrer, eh bien, en peu de temps, il a fait un chemin de foi extraordinaire. Et dans cette assemblée, il y a des gens qui rentrent dans l'église, qui connaissent à peine Jésus, et pendant la prière, ils font un chemin de foi extraordinaire. Ils cheminent extraordinairement, de telle sorte qu'ils avancent et ils vont pouvoir recevoir des grâces, alors même qu'en entrant dans l'église ici, ils ne connaissaient pas encore vraiment Jésus. Voilà, ce soir, je demandais à Anne-Claire de venir nous donner son témoignage. Elle est bienvenue. Elle a bien voulu venir. Donc, je suis très, très heureux qu'elle ait accepté de venir.
Bonjour. Je m'appelle Anne-Claire, j'ai 55 ans et je ne connaissais pas du tout Saint-Nicolas-des-Champs avant juin 2018 en fait. Et je viens témoigner d'une guérison physique, mais aussi et surtout d'une rencontre. À 25 ans, j'ai eu un accident de ski, un peu banal, mais très très mal opéré. Donc je suis restée après 2 ans sans marcher, de 25 à 27 ans, entre fauteuil roulant, rééducation, béquille, centre de rééducation, rebéquille, enfin bon voilà. Puis des problèmes incessants, des reprises de canne, retour chez le kiné, des douleurs, voilà, pendant toute pas mal d'années. Ça ne m'a pas empêché de vivre quand même, de rencontrer des amis, de sortir, de travailler, etc. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant qui a 19 ans, enfin non, dans quelques jours. Et je me suis fait réopérer 2 fois du genou pour nettoyer toutes les erreurs du premier chirurgien qui avait fait une boucherie dans mon genou. Voilà. Et puis en juin 2018, j'allais beaucoup mieux. J'allais à un dîner chez des amis, donc j'avais mis des petits talons. Et en sortant, je me casse la figure sur les marches qui mènent entre la maison et le jardin et survient une grosse douleur au genou. Bon, je me dis, ça va passer. Et puis en fait, une énorme bosse sur le côté externe du genou apparaît. Je suis obligée de reprendre mes cannes, antidouleurs, anti-inflammatoires. Retour chez le chirurgien. Je passe un IRM et il me dit fracture du ménisque. Il y a un bout pointu du ménisque qui s'est fiché entre deux bouts d'os, bref, qui pointait, qui était vraiment à fleur de peau et qui faisait cette grosse bosse au genou, en fait. Donc l'opération obligatoire était prévue pour fin juillet. À tel point que je ne pouvais même pas mettre de pantalon serré parce que ça effleurait la bosse et ça me faisait vraiment très mal. Et puis quelques jours après, en discutant avec une amie, elle me parle de Saint-Nicolas-des-Champs. Bon, bah, je lui dis, écoute, allons-y. Et sur le trajet, donc moi je suis venue en voiture, sur le trajet, ma sœur m'a téléphoné et elle me parle assez désespérée de son fils qui se drogue, en fait, de mon neveu. Donc en arrivant à Saint-Nicolas, j'ai prié pour lui, pour sa famille, pour voilà, toute notre famille a grandi. Et puis lors des prières, j'ai bien entendu le père Thierry qui disait, il y a quelqu'un dans l'assistance qui sera guéri d'un accident au genou et d'un fort mal à l'estomac. J'ai bien entendu cette parole, il y a beaucoup de gens dans l'assistance et qui ont mal aux genoux et qui ont sûrement peut-être mal à l'estomac à force de manger des antidouleurs, anti-inflammatoires, etc. Et donc je me suis dit, ouf, je ne suis pas la seule dans mon cas. Et même si j'avais entendu cette parole, je ne pensais pas qu'elle m'était destinée en fait. Et j'ai continué à prier pour mon neveu. À la fin de la cérémonie, je me lève, je prends mes cannes et puis je me dirige vers le parking qui est juste sur la place là. Et puis en fait, bon, ceux qui ont eu des cannes savent, avec les cannes, un sac à main, chercher le ticket pour mettre son ticket, pour ouvrir la porte du parking. Enfin, tout ça est une opération compliquée, surtout qu'il pleuvait des cordes. Et donc j'avais mis mes cannes le long de la porte du parking, bêtement. Je réussis à mettre mon ticket, je pousse la porte, et hop, mes cannes dévalent dans les escaliers. Je fais une ligne nue deux, je descends les marches. Et là je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'étais un peu estomaquée. Donc je reprends mes cannes, je remarche avec mes cannes jusqu'à ma voiture, je rentre chez moi et arrivé à la maison, je me rends compte que j'avais plus de bosse. Plus de bosse et plus de mal au genou du tout. Donc le lendemain matin, je vais à Saint-Claude-aux-Halles, qui est l'église près de mon bureau, et je prie pour que ça ne revienne pas. Je doutais beaucoup, je ne comprenais pas pourquoi moi, j'avais peur que la douleur revienne. Je ne suis pas du tout comme les apôtres du mont Tabor qui ont cru et qui ont vu Jésus. J'étais un peu interloquée. Et puis, tous les jours, en passant devant cette église, j'avais l'impression que quelqu'un me poussait presque à l'intérieur de l'église, comme si j'étais presque poussée par quelqu'un qui me poussait dans le dos. Et tous les matins, je suis retournée à l'église, dire bonjour au Seigneur, discuter. J'avais l'impression vraiment d'avoir rencontré quelqu'un. Que quelqu'un me mettait la main sur l'épaule et me disait « Mais n'aie pas peur, ça ne va pas revenir, t'inquiète pas. Ou fais ceci, fais cela. » Et j'ai eu vraiment l'impression d'avoir rencontré le Christ ce jour-là. Je vous le dis un peu avec émotion, mais c'est vrai. Et j'ai vraiment eu l'impression de parler à quelqu'un qui vous écoute, qui vous comprend, qui me renforce et qui me guide dans toutes mes actions, quel que soit où je suis, quel que soit le moment de la journée. J'ai quelqu'un qui est avec moi. Et même si aujourd'hui, l'état de mon genou, le ménisque, bon, il est réparé, mais le reste reste un genou voilà, en très mauvais état, je me sens accompagnée et joyeuse. Voilà. Je voulais juste partager cette histoire avec vous. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Anne-Claire pour ce témoignage de la guérison de son ménisque. Et merci aussi pour ce témoignage de la guérison, de la rencontre avec Jésus, parce que si le Seigneur nous guérit, c'est aussi pour ouvrir notre cœur à cette rencontre, nous montrer qu'il nous aime et qu'il nous conduit. Voilà, maintenant nous allons exposer le Saint-Sacrement. C'est Jésus qui vient parmi nous, il est là, il est le Sauveur. Donc n'ayons pas peur de mettre notre foi en lui, il peut nous faire que du bien. Amen.